tiens.
Non, moi je reste, toi tais-toi. Fais pas le con, grimpe là-dedans.
Non, je reste. Oui, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir.
Vas-y, roule, roule, roule.
Tu crois m'apprendre? Passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça.
Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens.
Je vais te le faire à pile ou face.
Pile.
T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi.
Il était le magnifique du cinéma français, l'as des as, le marginal, une personnalité hors norme, des rôles inoubliables, jeune premier dans Un bout de souffle, pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans le Guignolo, plus de 80 films en 60 ans de carrière, l'itinéraire d'un enfant gâté.
De dire bonjour.
Pardon ?
Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour.
Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour.
Bonjour.
Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade.
Bonjour.
Refais-le, ça.
Bonjour.
Voilà, je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi.
Jean-Paul Belmondo s'est éteint aujourd'hui à 88 ans. Hommage ce soir dans C'est à vous avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick. Bonjour. Et nos invités ce soir, Daniel Auteuil, Bernard Mural, réalisateur et metteur en scène de théâtre, et Michel Drucker.
Salut.
Bonsoir
les
Pierre Daniel.
Bonsoir.
Sur la musique de L'As des As, nous vous accueillons tous les trois pour évoquer la mémoire, la carrière, les images de Jean-Paul Belmondo, étincelant, éblouissant. C'est l'avocat de la star qui l'a annoncé à l'AFP. Il était très fatigué depuis quelques temps. Il s'est éteint tranquillement chez lui à 88 ans. Il faudra du temps pour se faire à cette idée, tant il porte, il tient en partie à bout de bras l'histoire du cinéma français et du théâtre français.
Il est le cinéma français. Il est l'inventeur, je dirais, du jeu moderne du XXe siècle. C'est lui qui apporte ce souffle nouveau. Je me souviens de jouer avec François Perrier au théâtre, et je me souviens de François Perrier, cet immense acteur, qui me dit, quand il a vu arriver Belmondo dans un film, il m'a dit voilà, c'est ma carrière au cinéma est terminée. Quelque chose a changé. C'était un homme tellement aimé du public. Mais je vais laisser parler mes amis qui le connaissent mieux que moi.
Je crois que, en fait, c'est...
Bernard, vous l'avez mis en scène
plusieurs fois au théâtre, au cinéma,
Désiré en 95.
Je dirais que c'est vraiment l'acteur type, quoi. C'est une carrière qui est imparable. C'est un homme de théâtre.
Il a commencé par le théâtre.
Oui, mais pendant 7 ans, 8 ans, il jouait tous les soirs à Paris et il était fou de joie de jouer. Et le cinéma, il regardait ça vraiment très loin, quoi. Ça ne l'intéressait pas trop, parce que Jean-Paul n'a jamais été un fabricant de planning de professionnel. Pour, voilà, hein.
Oui, il n'avait pas une carrière, bon, un plan de carrière,
pas ce que
une
ça
autoroute
dire,
devant
non.
Lui.
C'était quelqu'un qui a toujours été ce qu'il a été depuis le début, quoi. Je ne sais pas comment dire.
Fidèle à lui-même.
Oui, et puis, je ne sais pas, il avait un amour de la vie et il était heureux de dire qu'il était heureux, quoi. C'était quelque chose que... Voilà, on riait beaucoup, hein. Il faut dire que les anecdotes, il y en a beaucoup avec lui. Mais en même temps, il y a un amour, peut-être de la culture qu'il a reçue par ses professeurs, le grand Georges Leroy, qui, paraît-il, la première fois qu'il l'a vu, il s'est retourné, il a dit à toute la classe au conservatoire, « Regardez-moi donc comme il bouge, cet animal-là !» Et c'était ça, c'était la survenue de d'un phénomène, quoi. Et à ce moment-là, je ne veux pas jouer les analystes, mais c'est vrai que le jeune premier est complètement blackboulé.
Il blackboule l'image du jeune premier.
Oui, parce qu'on disait toujours, il faut quand même qu'il soit capable de prendre une femme dans ses bras. Avec ce visage-là, il ne va pas pouvoir, ce n'est pas possible. Quoi. Bon,
voilà. Alors, il nous a ouvert le chemin.
Michel, quelle image vous garderez de Jean-Paul Belmondo?
Son œil qui frise.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai pu rire. Regardez les yeux de Jean-Paul, tellement il s'est marré. Il a les rides du bonheur. Il était mon voisin, pas loin d'ici, donc je l'ai vu beaucoup récemment. Je suis allé à son anniversaire, il n'y a pas tellement longtemps. Il m'avait dit, reviens me voir.
Il était fatigué, mais
oui,
il a ri avec vous.
Il m'a dit, reviens me voir, mais vite. Alors, j'ai tellement de souvenirs avec Jean-Paul. Mais Jean-Paul, Pierre Dux lui avait dit, grand Pierre Dux, avec votre physique et votre jeu, vous n'aurez jamais une jolie femme dans vos bras. Jamais, jamais, jamais. Et puis des années plus tard, Jean-Paul croise Pierre Dux aux Champs-Élysées avec à son bras Raquel Welch. Et il se dit, c'était pas Raquel Welch, c'était la James Bond girl.
Ursula Andress.
Ursula. Il voit Monsieur Dux, il dit, j'ai fait ce que j'ai pu. Et des anecdotes avec Jean-Paul, on se voyait tellement souvent, on s'est vu dès 1965. C'est un vieux pote.
Un vieux pote qui a fait l'une de ses dernières, sa dernière apparition
Mais
à la télévision.
Ça restera mon plus beau souvenir de carrière.
Plus beau souvenir de carrière.
Ah oui. Les 80 ans de Jean-Paul.
En 93.
Trois heures. Et on repassera ça dimanche.
On regarde un extrait.
D'accord. Michel. On va accueillir quelqu'un qui n'était pas en conservatoire avec vous, mais c'est la même génération, il est encore sur les routes, il a marqué vraiment son époque, on va parler avec lui de Dragé au Poivre, entre autres. T'as un grand souvenir avec lui d'une tournée, voici Guy Bedos.
Enfin, je l'ai vu à la télé là, mais je ne l'ai pas vu.
Alors...
18 ans il avait, quand je l'ai connu. Ouais. Moi seulement 17, tu vas bien?
Ça va bien. Dis-moi, Guy.
Je suis content de vous avoir revu, je m'en vais.
Dis-moi. 18 ans, raconte-moi.
Tous ces vieux types ensemble, ça me fout un cafard.
Tu veux mon poing dans la gueule?
Jean-Pierre Marielle, qui était son pote de conservatoire.
Il les a rejoints ce soir, tous. Tous. Et Girardot aussi. C'était un souvenir absolument inouï. On avait préparé ça et on se disait... S'il annule au dernier moment, parce qu'il avait des hauts et des bas, il était quand même très fatigué. Mais moi, j'ai un souvenir qui restera à jamais dans ma mémoire, c'est qu'il a eu cet AVC, il avait déjà 70 ans, il était dans un état vraiment difficile. Et puis, je l'ai convaincu d'aller se rééduquer en Normandie. Le monde médical, c'est le mien. Et j'étais petit pilote d'hélicoptère du dimanche, je l'ai amené en hélico à Granville, où on nous regarde ce soir dans le centre de rééducation. Et il est venu. Et c'était... C'était un jour de novembre, c'est pas le mois le plus gai, avec un crachin normand sur le casino de Granville, il pleuvait. Il est venu sur le balcon, il boitait beaucoup, on a ouvert sa valise. Deuxième étage, c'était un décor de film, il y avait une petite une infirmière avec une voilette au vent qui poussait un handicapé. Il a regardé ça et il m'a dit « Tu me ramènes, sinon je te fais ma dernière cascade. » Il n'a pas fait cette dernière cascade, il est resté. C'est lui qui a encouragé tout le monde. Je l'ai ramené une deuxième fois. C'est un héros, Jean-Paul. Ce qu'il a vécu depuis 15 ans après un accident vasculaire cérébral terrible, on n'imagine pas ce qu'il a vécu. Il a gardé le sourire tout le temps.
Oui, tout le temps. Moi, je me souviens, l'image me revient en écoutant Michel. On est dans sa loge et puis il veut mettre sa main dans sa poche et il n'y arrive pas. Il fait « Oh, elle m'emmerde, celle-là
» Il a été d'un courage.
Avec ça, quoi.
Ses 80 ans fêtés à la télévision. Et puis, l'une de ses dernières apparitions publiques, c'était en 2017, l'hommage de tout le cinéma français au César.
Mesdames, messieurs, Jean-Paul Belmondo.
Moi, j'ai aussi un souvenir d'un hommage comme ça qui lui a été rendu et qui était magnifique. C'est à Lyon, au Festival Lumière. Et il devait se déplacer, je ne sais pas, il avait 300 ou 400 mètres pour se déplacer. Et ça a duré 10 minutes. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, les 2000, 3000 personnes dans la salle l'ont applaudi. Et on aurait pu l'applaudir toute la nuit pour lui dire à quel point on aimait cet homme et tout ce qu'il nous a apporté, quoi. Mmh. La joie, il nous a rendu aventureux. Chaque jeune acteur a voulu être lui. C'était impossible, mais en tout cas, c'était un modèle. On voulait être ça, quoi.
Votre modèle à vous, un de vos modèles.
Un de mes modèles,
dans un livre, il parle de toi.
Oui, 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 il m'aimait bien, donc j'étais très heureux, oui. Il venait me voir au théâtre souvent, et chaque fois qu'il était là, je jouais très, très, très mal.
Parce que
j'avais un trac monstrueux.
Vous saviez qu'il était là.
Oui, j'avais un trac monstrueux. C'était affreux. Ou j'en faisais trop, ou ça tombait à côté, ou j'avais des trous, c'était horrible. Et il était gentil, il venait à la fin, c'était bien, bien.
Un bon comédien.
Un bon comédien.
Bon camarade.
Il gardait cette passion du théâtre et du cinéma, même affaibli, il voulait continuer à monter sur scène le plus longtemps possible.
Son père, il disait que son père lui avait toujours dit, reviens à ton premier métier.
Donc, Paul Belmondo, qui était sculpteur.
Fois. Oui, voilà.
Son premier métier, c'était la scène.
Il a toujours dit ce que faisait mon père n'était pas accessible pour moi. Et c'était un tel artiste que je ne pouvais qu'être un saltimbanque. Ouais, voilà.
Mais il lui a rendu hommage à son père en faisant ce musée formidable où toutes les œuvres de son père sont exposées aujourd'hui.
Les 80 ans. De Jean-Paul Belmondo, vous les avez aussi célébrés, Patrick, à la radio sur France
Inter. La même semaine que Michel, je l'avais interviewé aussi pour ses 80 ans. J'étais allé chez lui rue des Saints-Pères, comme on visite un monument dans un salon orné des œuvres de son père, de superbes sanguines, peignait aussi, et donc il y avait ces œuvres-là, et j'en garde un souvenir immensément joyeux, avec un peu de tristesse aussi, parce que vous l'avez dit, Michel, sa parole était diminuée, l'élocution était difficile, la gouaille, la répartie, le naturel qui avait fait son succès, son éclat s'était enfui, mais pas son charisme, son sourire immense, ses yeux pétillants, ses souvenirs intacts, ses années 50, où personne dans la bande du conservatoire, on les a vus tout à l'heure, Marielle, avec Claude Riche, avec Bedos, Vernier, Rochefort, Marielle, personne ne pense devenir vedette, et encore moins ne pense au cinéma, son limogeage de la Comédie française au bout de 6 mois, tous ceux qui se sont trompés, vous avez cité Pierre Dux, mais René Clair aussi, le cinéaste, lui avait dit, avec cette gueule-là, vous ne ferez jamais de cinéma. Le temps des cascades, car il passait d'un balcon à un autre avant de le faire au cinéma, avant de commencer par L'Homme de Rio. Le temps de la bagarre aussi, il avait le point facile dans sa jeunesse. Jean-Paul Rapneau, le cinéaste, se souvient parfaitement de la première fois où il a vu Belmondo, c'était à un bar de Saint-Germain-des-Prés, il était attaché avec une casquette, et il y a un type qui l'interpelle. Hey, Belmondo, il paraît que t'étais boxeur. Et Belle vient vers lui et lui lance « T'en veux une ?» C'était resté gravé dans la mémoire de Rapneau. « T'en veux une ?» Première réplique de Belmondo, jeune Belmondo. Belmondo nous avait expliqué aussi qu'il vivait dans l'instant de ses rôles, qu'il se défaisait aussi facilement qu'il y était entré des rôles, y compris des grands films qu'il avait interprétés. Il ne lui en restait rien, il se vantait de ne jamais revoir ses films. Il avait tous les talents, sauf le chant et la danse. Alors, il s'amusait des cinéastes qui avaient tenté de le faire chanter. Il n'avait jamais voulu. Et puis, juste après la diffusion de cette interview sur France Inter, François Morel, dans sa chronique, a prétendu avoir reçu une lettre de l'au-delà, une lettre signée Jean Gabin. Et en voici un extrait.
« On me dit que tu as 80 berges. J'en viens pas. Toi, le môme, l'intrépide, le chien fou. » Tu arrives à un âge que je n'atteindrai jamais. Tu étais mon gamin, je suis devenu ton petit frère.
Et Morel terminait en disant il y a quelque chose de particulier avec les acteurs, c'est que on ne meurt vraiment jamais. Et que moi, pour l'éternité, moi, Gabin, j'ai encore les larmes aux yeux quand je repense à la môme Morgan que je tenais dans mes bras. Et toi, tu resteras pour toujours l'intrépide à la recherche du trésor maltec de l'homme de Rio. Voilà. Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, m'avait fait savoir quelques jours plus tard que Jean-Paul avait entendu cette chronique et que ça l'avait touché, qu'il en avait été ému.
On ne peut pas parler de Jean-Paul sans parler de sa passion du sport. les casquettes qu'il a fait à la place des professionnels, il est de cassette partout. Hein. Il a pris des risques incroyables.
Des risques insensés.
J'ai sauté avec lui en parachute au-dessus de Paris, pas loin d'ici. C'était l'anniversaire du parachutisme. On nous a largué en double à 5000 mètres d'altitude. Il était partant pour tout. Il a fait toutes les cascades lui-même. Il est tombé. Et avec un film d'Arcadie qu'il a tourné à Montréal, il a pris une grue en pleine tête. Il recommençait.
Il recommençait. Ouais. Peur de rien ou...
Avec Audiard, il allait au Palais des Sports à la boxe tout le temps. Il était foot boxe. Moi, je l'ai connu boxeur à la Via Club. Et puis, il voulait être gardien de but. Son idole, c'était René Vignal.
Bon. Passion pour le foot.
Et on avait une équipe de foot qui s'appelait les Polymusclés Intermittents. C'est là où on s'est connus. Il était le gardien de but. On allait jouer devant 4 personnes. Mais on faisait ça pas pour la gloire, mais pour des bonnes œuvres. Il était là. Il tournait des films. Il quittait les films alors qu'il n'était pas assuré pour ça.
Oui,
il venait
ça.
Dans les buts. Prendre des risques incroyables alors que le lendemain, il tournait.
Émilie, justement.
Oui, d'ailleurs, on disait qu'il y avait le Delon, le tragique, et Belmondo, le rigolo, le guignolo, le boxeur, le voyou et le cascadeur, comme vous disiez, Michel. D'ailleurs, quand ils tournent ensemble, ils s'évitent dans la préparation parce qu'ils n'avaient pas du tout la même manière d'aborder le plateau. Jean-Paul Belmondo disait qu'Alain Delon devait se concentrer alors que lui se concentrait en se déconcentrant. Belmondo le déconcentrait. L'agité, l'hyperactif, sauf sur un ring de boxe, le seul endroit où apparemment il était travailleur. D'ailleurs, une occasion de faire un peu de sport, c'était sa raison, selon lui, de faire des cascades.
Un rapport, vous croyez, entre le fait que vous soyez aussi passionné de boxe et les rôles que vous jouez ?
Oui, certainement, parce que ça m'a apporté cet emploi au cinéma, c'est-à-dire un emploi un peu
de dur,
oui. Et la boxe m'avait donné justement ce côté hargneux dans la vie, c'est-à-dire ne pas se laisser démonter quand ça va mal.
Qu'est-ce que c'est la hargne ?
Ben, la hargne, c'est du moins dans un ring, c'est la volonté de gagner qui vous donne cette sorte de hargne.
Et alors là, sur ce document, c'est Pierre Desgros, il n'a pas le nez cassé encore.
Et juste après ?
Il a eu plus tard.
Le nez cassé à la boxe ?
Oui.
Ah bah oui.
Bien sûr.
Et tu te souviens qu'il marchait sur le métro ?
Non, peur sur la ville, ce qu'il a fait.
Peur sur la ville, oui.
Un type lui a dit, moi, pour 50 millions, je ne le fais pas. Il dit, moi non plus.
C'est pas pour 50 millions qu'il l'a fait.
Il expliquait pourquoi il faisait ses cascades.
C'est d'abord par goût, parce que j'aime bien le sport. Et c'est une occasion de jouer la comédie et en même temps de faire du sport. Parce que souvent, je n'ai pas le temps d'aller en faire. Alors j'en profite d'en faire avec les films. Et puis en plus, je trouve que ce n'est pas agréable quand on joue un rôle. Si par exemple il faut se pendre en haut d'un building, que ce soit un autre qui le fasse à ma place, parce qu'à ce moment-là, je reste sur un fauteuil et je m'ennuie énormément.
Voilà, tout simplement juste pour faire du sport et ne pas s'ennuyer. Il fait les cascades lui-même. Depuis enfant, d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, Patrick, il se pendait par les pieds dans la cage d'escalier, changeait de pièce en passant par les fenêtres. Et bien adulte, il fait à peu près la même chose. Il passe toujours par les fenêtres, mais suspendu à un hélicoptère dans Peur sur la ville en 1975. D'un hélicoptère en vol, il saute dans un petit avion. Un de ses plus grands plaisirs dans la vie, selon lui, ça c'est dans L'Animal en 77. D'ailleurs, le plaisir, il en prend pas qu'en hélicoptère, il en prend aussi en voiture.
Si vous pouvez vous approcher, tout le monde.
Jean-Paul, vers nous, s'il vous plaît.
Ça va ?
Impeccable.
Bon. C'est pas tout, mais... Au travail.
C'était pas du travail
pas
avant.
Pas du tout, ça c'était de la récréation où il risque quand même sa vie. À la récréation, il a bien failli mourir dans L'Homme de Rio en 1964 quand il passe d'un immeuble à un autre suspendu à un fil sans protection.
Et en trapèze, le guignolo au-dessus de Venise.
Au-dessus de Venise.
Il faut y aller quand même.
Et il le faisait parce qu'il n'imaginait pas rater une cascade. On n'a pas d'archives où il dit qu'il n'imagine pas rater de cascade. En revanche, il a pu se rater, il a pu se louper, se blesser en torse à la cheville, doigt foulé, cuisse déchirée, main fracturée, point de suture à la tête. Pour lui, les rencontres avec les réalisateurs étaient aussi déterminantes que celles avec les cascadeurs. C'est après avoir connu Gilles Delamarre sur un double tour qu'il décide de réaliser ses cascades lui-même. Et enfin, il a formé un duo légendaire avec Rémy Julienne, le monsieur cascade du cinéma français, qu'il considérait comme un des 5 meilleurs techniciens du monde, mais aussi comme un ami. Quand Rémy Julienne recevait un prix d'honneur de sa ville dans le Loiret, il l'avait invité, Jean-Paul Belmondo.
Moi, ça prouve, encore une fois, toute la confiance qu'il a pu m'accorder et avec les folies que je lui ai fait faire, qu'il a faites en précédant encore tout ce qui peut être précédé et vu par un acteur qui est encore meilleur que le meilleur des acteurs. Et là, ben, je ne sais plus quoi dire, quoi. Je suis un peu, j'ai les pattes coupées. Hein.
Avec le recul, Belmondo, qui a risqué sa vie maintes fois et inspiré Indiana Jones de Spielberg, préférait lui en rire, notamment quand Anne Sinclair lui demande à l'époque du 7 sur 7 son avis sur la grève dans le métro.
Alors, que pense Belmondo qui roule en voiture, tous ceux qui ont marché cette semaine, qu'ils ont raison de protester contre les grèves qui les empêchent un peu de vivre, ou bien que la grève est le seul moyen aujourd'hui de faire admettre ses revendications?
Vous savez, je comprends très bien, comme vous dites, moi j'ai la chance de pouvoir rouler en voiture. La dernière fois que j'ai pris le métro, moi c'était sur le toit. Mais...
oui, tout le monde ne fait pas ça.
Tout le monde ne peut pas le faire. Je comprends, moi, les banlieusards qui vont faire 2 heures, 3 heures, voire 4 heures de trajet en plus sur leur travail, c'est effrayant.
Le métro, lui, c'était sur le toit, parce qu'en fait, il ne faisait rien comme les autres.
Et puis, les Français allaient voir Belmondo au cinéma pour ses cascades. C'était essentiel aussi, ils le savaient, ils voulaient en faire aussi, parce qu'ils savaient que les Français aimaient ça chez lui.
Bah, je crois, oui, c'est tout ce qu'il contenait en lui qui explosait comme ça. Et alors, nous, on l'a bien vu, il débordait le trait, comme on disait, au théâtre, mais en coulisses.
C'est-à-dire
bah, il nous a fait des trucs...
Qui ne se voyaient pas, que le public ne voyait pas.
Ah non,
c'est
non,
juste
pas
pour
du
vos
tout.
Beaux yeux,
non,
Bernard.
Il en avait après Pierre Vernier, que je salue ce soir.
Son vieux camarade du conservatoire. Triste,
voilà, mais qui est toujours avec nous, et qui est le plus âgé de la bande. Mmh. Hein. Bravo, Pierre. Et il raconte pas cette histoire, j'ai bien vu. Dans le dindon, à un moment donné, Vernier devait sortir de scène, il avait fermé les portes à clé. Il a dit, il a eu un premier prix au conservatoire, il va pas me faire chier jusqu'au bout. Quand même. et alors l'autre, bon, et après il a fini par ouvrir, et Jean-Paul avait pris la perruque de Alan. Et il a pris la perruque, il s'est mis la perruque. Donc quand il a ouvert, il a vu Jean-Paul avec la perruque, qui lui a dit c'est Delon dans Casanova.
Et donc fou rire.
En plein spectacle. Hein.
Ah oui, donc fallait avoir les nerfs solides avec Jean-Paul.
Pierrot Vernier.
Il adorait déconner.
Voilà, pour le faire rire, Jean-Paul il le connaissait depuis longtemps.
Belmondo alias Bébel, un surnom qui lui venait de sa filiation avec Gabin.
Ben oui, c'est fin 61 que le grand Henri Verneuil propose au jeune Belmondo qui a 28 ans de tourner aux côtés de l'une de ses idoles, Jean Gabin, qui a alors 57 ans, des dizaines de films avant-guerre, une pose américaine et résistante, et puis des grands films classiques et populaires dans l'après-guerre. Il est un peu retiré à ce moment-là, Gabin, il observe de loin la jeune classe de la Nouvelle Vague, il dit quoi ? Il raconte des histoires ? Ben moi j'aime ça, les histoires, et après tout, la Nouvelle Vague avant-guerre, c'était moi. C'est la première fois que Jean-Paul, déjà vedette, va se retrouver avec un tel personnage. Heureusement, il y a Verneuil, une œuvre tirée d'un bouquin de Blondin que Belmondo a connu justement dans les cafés du quartier latin dont parlait Patrick. Et puis, c'est adapté par Audiard, qu'il adore. Mais il est tendu, comme avant ces grands matchs de boxe ou de football qu'il adore. Le premier contact va être froid, quasi glacial. Et même un peu plus. Et puis avec de telles natures, de tels personnages d'acteurs et de sincérité, ils vont se rapprocher. Et Jean-Paul deviendra Bébel, effectivement. Là aussi, une filiation avec le surnom de Gabin dans les bas-fonds de Jean Renoir avant la guerre. Les images d'un singe en hiver, on les a tous au cœur. Vous en avez passé tout à l'heure au tout début de ce C'est à vous. Regardez Jean-Paul lui-même sur le tournage.
On a beaucoup dit que vous étiez le Jean Gabin jeune. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis ?
Oh bah ça, moi je ne sais pas. Moi j'ai vu Jean Gabin quand il était jeune, je trouvais formidable. Savoir si je suis le Gabin jeune, je sais pas. Moi je préfère être Belmondo.
Hier, nous avons assisté en effet à une scène tournée où vous étiez au milieu de la rue. Voulez-vous nous raconter ce qui se passait exactement ?
Ce personnage, quand il boit, revit avec l'Espagne et là, il a vraiment beaucoup bu. Et il se prend pour un toréador.
Un toréador et la voiture joue le rôle du taureau.
Les voitures, pour lui, sont les taureaux. Et tous les badauds qui étaient rassemblés, pour lui, c'est la reine. Et vraiment, il s'y croit.
De ce jour-là, on ne dira plus jamais que Belmondo aime être magnifique tout seul. Il aime les grandes rencontres, il aime les troupes. Il vous le disait, Michel, en 76, dans cette interview.
Quand on a du succès, je sais que c'est parmi les choses des fois qu'on me reproche. On dit Belmondo, il veut être tout seul. Je pense que c'est faux. Parce que plus on a des acteurs très bons ou des actrices très bonne en face de soi, mieux on joue. Si vous voulez regarder au tennis, vous jouez bien si vous avez un bon partenaire. Oui. Je crois que le cinéma, c'est pareil. Jouer avec Gabin, ça a été pour moi très, très enrichissant. Il y a deux acteurs qui m'ont beaucoup appris, je crois, à jouer avec eux. C'est Pierre Brasseur, et qui j'ai eu la chance de jouer au théâtre pendant 7 mois. Et je crois que j'ai appris là plus qu'en 4 ans de conservatoire.
C'est en 57 que Belmondo joue avec Pierre Brasseur dans La Mégère apprivoisée de Shakespeare.
Brasseur,
moi, j'avais 12 ans.
Un peu abîmé.
J'avais 12 ans et ma mère m'a emmené le soir de Noël voir cette Mégère apprivoisée. Comme toujours à Noël, à l'entracte, les acteurs viennent, les comédiens viennent pour vous vendre des petits sabots au profit des vieux comédiens. Et nous, on était au balcon et on a vu d'un seul coup l'un des valets qui, dans la pièce de Shakespeare, ils sont 3 ou 4, et il y en avait un particulièrement acrobatique qui, lui, a grimpé jusqu'au balcon. Il a bondi sur le balcon avec son sourire désarmant. Ma mère m'a dit, je ne le connais pas. On a regardé dans le programme. Elle m'a dit, il s'appelle Belmondo. 3 ans plus tard, il a fait À bout de souffle.
Mais les soirées avec Brasseur, parce que Brasseur ne buvait pas que de l'eau, et il sortait du théâtre dans un état, et souvent Jean-Paul le ramenait chez lui. Sur son dos.
Sur son dos.
Sur son dos.
Vous n'avez jamais renvoyé la balle à Jean-Paul Belmondo?
Non, jamais.
Jamais été son partenaire de cinéma?
Non, jamais. C'est un... Au fond, si... parfois on me pose des questions, si j'ai des regrets, je dis non. Mais là, oui, finalement, oui. Ce soir, c'en est un, oui. Effectivement. Non. Il ne peut pas rien vous dire de plus. Ce n'est pas de ma faute.
Votre film préféré de Jean-Paul Belmondo, celui dans lequel vous auriez aimé être à ses côtés?
Oh, j'ai adoré à bout de souffle, j'ai adoré un autre film de Godard,
Pierrot le Fou.
Je l'ai adoré sur toutes ses époques. Chaque fois, il a évolué en même temps que nous. C'est pour ça qu'on l'a suivi. On l'a suivi tout le temps comme ça. Dans ses grands rôles dramatiques, dans ses comédies.
Melville aussi.
Oui, chez Melville. Mais on parle du cascadeur, tout ça, mais c'était un immense acteur libre. Libre. D'une invention perpétuelle. C'était absolument magnifique. C'est très rare d'arriver si jeune et si libre. C'est très rare.
1965, Pierre le Fou. On écoute Anna Karina qui parle de Jean-Paul Belmondo. Ça arrive dans quelques secondes.
Quelle impression ça fait, Jean-Paul, de manquer de passer sous un train? Ah bah ça, c'est une bonne impression. C'est-à-dire que moi, j'irais jamais me suicider en me foutant sous un train, c'est tout.
J'ai l'impression que vous êtes parti au tout dernier moment.
Oui, alors, je sais pas, on va peut-être aller encore plus près. Bon, c'est pas la peine de se faire accrocher.
Ce genre de scène, ça paraît simple, mais c'est tout de même dangereux.
Bon, d'appréhension, non, parce que quand même, j'ai des bonnes jambes. Je sais que je peux courir et me lever à temps avant que le train arrive.
Et pourtant, Jean-Paul Belmondo ne voulait pas faire de cinéma. C'est Godard qui réussit à le convaincre du contraire.
Il rencontre dans la rue, par
qu'il
hasard.
Il rencontre dans la rue.
Au quartier latin, effectivement. Enfin, l'histoire est ultra connue, hein, mais c'est une rencontre par hasard. Et pour un court-métrage, pour les besoins d'un court-métrage au départ, avant À bout de souffle.
Tous
les garçons s'appellent Patrick. Hein.
Exactement.
Voilà.
À bout de souffle, son agent qui lui dit, qui dit à Jean-Paul Belmondo qu'il ferait la plus grande erreur de sa vie en acceptant d'être la vedette de ce film sans scénario et presque sans argent d'un inconnu à la réputation peu fiable. Tout le monde a le droit de se tromper, Bernard Murat. Mais c'est vrai que le cinéma n'intéressait pas Jean-Paul Belmondo.
Non, mais...
Sa passion, c'était le théâtre.
C'était le théâtre, oui, c'est vrai. Alors, sur À bout de souffle, il y a une histoire qui est quand même incroyable. Et je pense qu'elle est vraie, parce qu'il me l'a racontée, et ça a été... Enfin, j'ai parlé après avec l'intéressé, c'est Jean Le Poulain. Quand il tourne la dernière scène dans À bout de souffle, et qu'il se fait... Voilà, et qu'il se traîne comme ça... La deux chevaux avec la caméra, le film, et rue Campagne Première. Il se trouve que Le Poulain habitait rue Campagne Première. Et il rentrait chez lui. Et il le voit. Il fait « Oh ben mon coco, qu'est-ce que tu fous ?» Il n'avait pas vu la voiture. Et lui, il a fait « Casse-toi, je meurs !»
Casse-toi, je meurs.
À propos de liberté,
sûr, hein,
à propos de liberté et de Melville, à la même époque de ces films-là, Melville en a fait un prêtre, un curé en soutane, Léon Morin prêtre, et le grand amusement de Belmondo, paraît-il, c'était de se promener sur les lieux de tournage en soutane et dans une voiture décapotable, ce qui faisait hurler Melville, avec qui les relations ont été d'ailleurs assez orageuses et extrêmement tendues sur le tournage.
On a récupéré le témoignage d'Anna Karina qui parle de son partenaire Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul, il a une manière d'être qui est tellement naturelle, qui est tellement... C'est vraiment le grand acteur. Et avec lui, on a... Je sais pas, ça se passe comme ça, ça se passe très bien, je crois.
Comment se fait-il, à votre avis, qu'il plaise tellement aux femmes?
Ben, je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, non? C'est quand on a du charme, il a du talent, il est... Il n'est pas bobo, mais il est pas mal, quoi.
Il n'est pas bobo, mais il est pas mal. Je vous sens très ému, Michel, ce soir.
Il y a tellement d'images qui reviennent. Il a eu que des jolies femmes à ses côtés, Jean-Paul. Hein, Laura Antonelli, quel couple ils ont formé, tous les deux. Mais je me souviens, Pierre s'en souvient sans doute, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années, on avait survolé Cannes en hélicoptère avec lui. Pour la une de match, c'était un peu le retour à Cannes. Et c'était extraordinaire. Il adorait ça, il adorait son métier. Il a été souvent meurtri que les Césars n'aient pas donné le fabriqué un César qui aurait été un Belmondo. Hein, tu te souviens de ça?
Bien sûr.
Il idolâtrait son père. On ne peut pas parler de Jean-Paul sans parler de ses parents. Son père était un homme extraordinaire. J'allais souvent le voir à l'atelier quand il sculptait avec Jean-Paul. Il a eu une maman formidable, qui était peintre également. Et sa maman, à la fin de sa vie, avait perdu la vue. Et tous les samedis, lorsqu'on rentrait dans nos matchs de foot, on allait avec sa maman et il lisait la presse. On allait au kiosque, il ramenait toutes les journées de la semaine et il faisait les lectures à
sa maman. Une revue de presse de Jean-Paul Belmondo,
sa maman,
j'aurais bien aimé entendre ça.
Qui ne voyait plus, était toujours dans les projections de presse, l'une des premières au balcon, et il lui racontait le film.
Justement, Jean-Paul Belmondo qui évoque sa mère et à quel point il a été élevé.
Ah oui.
Beaucoup d'amour, c'est un document qu'on vous propose de découvrir.
Magnifique.
Tout de suite.
Sans illusion, d'Albert Cohen, chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Est-ce que cette phrase vous va bien?
Oh, écoutez, non, pas vraiment, parce que je me fiche pas des autres et les autres ne se fichent pas de moi. Je crois que je suis un enfant gâté. Vous avez parlé de mes parents tout à l'heure, ils m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai été élevé dans l'amour et la gaieté, puisque j'ai été élevé dans un atelier de sculpteur, au milieu de peintres, avec une mère qui était peintre aussi, qui peignait, qui a arrêté pour s'élever de ses enfants.
Et il vénérait son père, le sculpteur Paul Belmondo. Normalement, on a quelques mots de Jean-Paul Belmondo qui...
Paul Belmondo, est-ce que Jean-Paul s'intéresse toujours autant à votre œuvre ?
De temps en temps, il ne vient pas très souvent à l'atelier.
Vous n'avez jamais souhaité que votre fils devienne sculpteur aussi?
Non, Jean-Paul, je ne crois pas. Il était doué pour la sculpture. Car tout jeune, à l'âge de 10 ans, déjà, il jouait la comédie.
Je trouve que c'est un très beau métier, je trouve ça formidable, c'est un métier très, très indépendant. Mais j'avais vraiment pas de dons. Je crois que ça ne se transmet pas, les dons, finalement. C'est comme chez les acteurs, c'est très rare qu'il y ait un fils d'acteur qui fait une carrière. Ça arrive, mais enfin, c'est très rare.
Ça ne se transmet pas les dons, un peu quand même.
À propos de la famille, il était très fier du parcours de Victor Belmondo.
Qu'on a reçu ici.
Son petit-fils.
Il était très fier de son petit-fils.
Et qui fait du cinéma.
Absolument. Et qui est en train de...
De la même façon que son père.
Et en train de marquer son époque.
Crève en partie l'écran. Il était notamment remarquable dans Envole-moi.
Exactement.
À l'affiche...
Avec Lanvin.
Il y a quelques mois, aux côtés de Gérard Lanvin. Et il me semble que de ce côté-là, il y a un peu d'hérédité chez les Belmondo. Vous parliez des honneurs, de la meurtrissure de ne pas avoir reçu de César. C'est vrai qu'il n'a pas reçu de César de meilleur acteur, un César d'honneur. Mais surtout...
Il a eu un César pour Itinéraire d'un enfant gâté, mais
sûr.
Il n'y est pas allé, considérant qu'il aurait dû être appelé depuis déjà pas mal de temps et qu'il n'y avait pas assez de comédies et de films dits populaires au César. Donc il n'était pas venu le recevoir. On a vu tout à l'heure quand même l'hommage debout auquel il avait accepté bien sûr d'assister. C'était très émouvant. C'était en 2017 dans la salle des Césars. Et puis il a reçu en 2011 une palme d'or. C'est sans doute à cette occasion-là, Michel, que vous avez survolé la croisette. Une palme d'honneur à Cannes, sur la scène du Palais des Festivals, au milieu de tous ses amis et à côté de Thierry Frémaux.
Ici, que je ne connais pas, ceux que je connais et mes amis, je vous dis un grand merci du fond du cœur. cette palme qui me va droit au cœur.
Magnifique émotion de Jean-Paul Belmondo. On était en 2011.
Dans 2011.
Sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. Vous restez avec nous. On va conclure cette page spéciale consacrée à Jean-Paul Belmondo avec Mohamed Bouafsi. C'est la story du jour. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Mohamed, bonsoir à toutes et à tous.
Vous nous racontez la façon dont les médias et les Français ont accueilli l'annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo.
16h22, une dépêche de 6 mots envoyée par l'agence France Presse. Jean-Paul Belmondo est mort. Dans la foulée, les chaînes d'information basculent en édition spéciale.
Parlez donc de ce sondage. Un sondage, une enquête très intéressante que publie l'IFOP pour LCI et le Figaro. C'est le baromètre de l'élection présidentielle. Il y a beaucoup de choses dedans. Et j'apprends à l'instant que Jean-Paul Belmondo est mort.
Priorité au direct, si vous nous rejoignez, édition spéciale parce que Jean-Paul Belmondo est décédé.
On va reparler de ce documentaire qui sera donc à découvrir sur France Info. Mais je vous interromps parce qu'on vient d'apprendre cette nouvelle. Jean-Paul Belmondo est décédé.
À 16h28, votre édition qui s'ouvre sur cette nouvelle qu'on vient d'apprendre, la mort de Jean-Paul Belmondo.
Les plus grands quotidiens en font leur une, comme la mort du magnifique pour le Figaro, la vie et Bébel à Libération. Les premiers à prendre la parole, des amis, des collègues, Christina Reali, Philippe Torreton, Vladimir Cosma et Philippe Labro.
C'était mon premier rôle pratiquement au cinéma et j'avais fait de longs essais pour être sa fille et j'avais eu beaucoup de bonheur et depuis ce jour-là, on est restés amis. Et j'ai toujours suivi beaucoup ses conseils.
C'est quelqu'un qu'on a aimé et qu'on aime, et dont moi, personnellement, je pleure l'absence et la disparition.
Il fait partie des acteurs qui inspirent un compositeur de musique comme moi.
J'aime cette liberté qu'il avait, une liberté de choix totale, son corps, sa condition physique d'athlète, parce que c'était un vrai athlète.
Le président de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex ont réagi tous les deux. Un tweet chacun. Même chose pour l'ancien président de la République François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo. Enfin, des anonymes, des Françaises et des Français qui ont suivi les aventures dans les salles de Pierrot le Fou où le professionnel ont tenu à lui rendre un bel hommage. Anaïs Recouli et Vera Lou Deride sont allées à leur rencontre.
Triste nouvelle pour le cinéma français parce que c'est quand même, je pense que c'était le dernier monstre sacré du cinéma.
C'est un monument national, un petit peu comme Johnny Hallyday, c'est une icône. Depuis les années 60, la nouvelle vague, à bout de souffle bien sûr, où il a été découvert avec Gene Seberg.
Sportif, moderne, avec Alain Delon, c'était un peu les deux grands acteurs de l'époque français quoi.
C'est un talent multiple et puis une gueule quand même en fait. Hein.
J'ai un ami d'enfance qui me disait tout le temps, un jour si je serai acteur, ça sera comme Jean-Paul Belmondo. On lui disait, rêve parce que lui, il n'y a que lui.
Michel Drucker en parlait il y a quelques secondes lorsqu'il évoquait ces samedis après-midi au foot. Le monde du sport, Michel pleure aussi un athlète exceptionnel, boxeur poids moyen, génial.
Grand connaisseur.
Ah oui, mais très grand connaisseur.
Sport automobile, la boxe et le foot.
Et le rugby aussi. et le rugby, Michel, puisqu'il a été un boxeur génial. Là, on voit le tweet de Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, puisque avant, dans sa jeunesse, Jean-Paul Belmondo a été un très très bon joueur de rugby. On a vu aussi le tweet de la Fédération française de tennis, puisque Jean-Paul Belmondo était un habitué de Roland-Garros et du cours Philippe Châtrier. Mais surtout, et on l'oublie beaucoup trop souvent, l'un des fondateurs du Paris Saint-Germain en 1970, le PSG qui vient de fêter ses 50 ans, 51 ans pour Paris. Et cela, c'était avec Jean-Paul Belmondo. Michel, on se rappelle tous de cette création du Paris Saint-Germain. Ça a été quelque chose d'important, très important pour lui.
Il y avait Daniel Echter, Francis Borrelli, oui. Tu te souviens, Pierre? Ah oui.
Les passionnés comme Michel Drucker, comme Pierre Lescure de ce club-là et du PSG. On le redit souvent, hein, Jean-Paul Belmondo était un passionné du Parc des Princes. Et pour lui rendre hommage, France 2 diffusera ce soir L'As des As à 21h et demain Le Professionnel. Et TF1 de son côté diffusera ce soir Itinéraire d'un enfant gâté. Les deux plus grandes chaînes françaises ont décidé de bouleverser leur programme après l'annonce du décès de Jean-Paul Belmondo.
Et dimanche?
Dimanche, on va passer 3 heures avec Jean-Paul. On va diffuser tout le spécial anniversaire. Tous ses copains étaient là. Il y avait Marielle, il y avait Rochefort, il y avait Bedeau, vous l'avez vu. Et dans la deuxième partie, il y avait la jeune génération, Jean Dujardin. Il considérait que Jean était un petit peu...
Son héritier.
Oui, absolument. Et puis, il y avait Guillaume Canet, il y avait Dupontel, enfin, il y avait de la nouvelle génération. C'était formidable. Puis à la fin, la surprise, il y avait sa fille Stella.
Merci beaucoup, Michel Drucker. Rendez-vous dimanche.
Dimanche à 15h.
À 15h sur France 2. Daniel, on vous retrouve tout à l'heure après 20h parce que vous nous présentez votre premier album. Ce soir en exclusivité, votre première scène sur une chaîne française, en direct à la télévision. Je sais que vous avez un peu de trac.
Avec Michel quand même.
Oui, il a chanté chez moi la première fois.
En direct, oui, déjà il y a longtemps.
Oui, mais c'était Champs-Élysées.
Oui, oui,
bah, oui, on c'est a les images.
Non, bien avant Champs-Élysées. Oui, oui. Non, c'était après la guerre. Non, oui. C'était rendez-vous de dimanche.
Ça, on a les images.
Ah oui, oui, très bien.
Histoire de vous faire plaisir. Donc, à tout à l'heure, Daniel. Merci beaucoup, Bernard Murat.
Merci, Bernard.
D'être venu sur le plateau de C'est à vous rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Merci à tous les trois. À tout à l'heure, Mohamed. De notre côté, pendant 3 jours, on va accueillir un homme qui a été filmé sous toutes les coutures. Il était de tous les instants et de tous les plans d'une visite historique.
La réponse, elle est forcément multiple.
Je crois en Marseille.
Et il n'y a pas de recette cachée.
Il faut tout raser
de formule magique.
Mais c'est vous là.
Il sait que la situation, elle est compliquée. Ici, il y a des écoles dans un état indigne de la République.
La moitié des gamins en 6e ne savent pas nager.
Cette ville, elle doit compter pour le pays.
Guy Peyraout est un grand scientifique français.
Ce qui va compter, c'est pas simplement un discours sur une estrade.
L'État peut systématiquement arriver en proposant des milliards.
Ce qui va compter, c'est les actes.
Se donner les moyens d'avoir un suivi, des mécanismes de responsabilité.
Et ça, on a besoin de le changer.
Vive Marseille, vive la République et vive la France.
Bonsoir Benoît Payan.
Bonsoir.
Maire de Marseille depuis décembre 2020. On est ravis de vous inviter, vous qui avez été au centre de cette visite historique d'Emmanuel Macron à Marseille.
Oui, vous en étiez la vedette aux côtés du président, puisque Renaud Muselier, le président de la région, avait le Covid. Martine Vassal, la présidente de la métropole, est restée quasiment muette. Jean-Claude Gaudin, qui a dirigé la ville pendant 25 ans, on en voit le bilan aujourd'hui. Mais curieusement, son nom n'a jamais été prononcé. Gaudin est resté invisible. Il a publié un message sur Facebook hier. Et Didier Raoult était au Gabon. Donc, Macron, Payan, main dans la main, comme vous l'avez dit, pour une visite et un engagement historique, comme vous l'avez répété. C'était inattendu, même si vous avez exactement le même âge, à un mois d'écart, 43 ans. Et aussi, autre surprise, vous parlez pareil.
Depuis les jardins du Pharo, nous pouvons contempler le palimpseste d'une ville multimillénaire.
Marseille, c'est une ville-monde qui est en effet ce palimpseste de migration et d'une France accueillante.
Le palimpseste, fallait le trouver. Il y a deux personnes en France, c'était vous et le président.
Je ne m'y attendais pas. Hein.
Des années, pardon ?
Je ne m'y attendais pas.
À ce qu'ils reprennent le mot.
Ah, mais vous n'aviez pas confronté vos discours ?
Non, je pense qu'on aurait évité ça.
Oui. Ah oui.
Mais c'était l'un de ses mots fétiches, il l'avait utilisé dans d'autres discours, Emmanuel Macron. Après des années d'errance et d'abandon, Marseille est de retour, avez-vous commenté, après le discours présidentiel. Pourtant, tout cela avait très mal commencé, c'était il y a un an. Après un été de relâchement, l'épidémie repartait en flèche à Marseille. Les services de réanimation étaient à nouveau débordés. La métropole ex-Marseille était placée en alerte maximale. Et pour protéger la population, pour sauver des vies, le gouvernement avait décidé de fermer à nouveau bars et restaurants. Mais vous, vous dénonciez une punition Paris contre Marseille.
Malgré les chiffres, malgré les efforts, une nouvelle fois, notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt, se voir imposer de nouvelles mesures sans aucune concertation et vécue par Marseille comme un affront.
Un affront à Marseille, disiez-vous. Alors, Benoît Payan, est-ce que maintenant que vous êtes maire et que le président est devenu un partenaire, vous allez abandonner le registre habituel de la rivalité Paris-Marseille ou PSG-OM ?
Bon, déjà, ne tombons pas dans la caricature tout de suite, Monsieur Cohen, si vous le voulez bien. Je retire rien du tout de ce que j'ai dit.
C'était la tonalité d'il y a un an, 23 septembre.
Je retire rien de ce que j'ai dit. Il se trouve que ça avait été décidé pour Marseille et que franchement, ça n'en valait pas la peine, et c'est pour ça que je l'ai dit à ce moment-là.
Ça n'en valait pas la peine ?
D'être les seuls et les premiers, non. Quand on a vu que tout le monde a suivi, le sujet n'était pas celui-là. Le sujet était que on aurait dû peut-être...
C'est là où l'épidémie était au plus haut.
Peut-être, non. Peut-être nous en parler un peu mieux. Mais ne revenons pas dessus. Aujourd'hui, de quoi il s'agit ? Il s'agit de se dire qu'on a une ville que vous connaissez, que vous aimez tous, je l'imagine, vous la voyez, elle a quelque chose de particulier. Elle a ceci de particulier qu'elle a une histoire particulière aussi. C'est une ville qui a pris sa part dans l'histoire du pays, et notamment dans les moments les plus difficiles, les plus douloureux du pays. Et qu'aujourd'hui, elle a besoin de repartir, elle a besoin de se lever. Quand je suis arrivé, j'avais deux solutions. Soit je jouais la rivalité Paris-Marseille, une fausse fierté, ce qui a toujours été joué, ce qui a toujours existé, soit je mettais tout sur la table, sans phare, sans maquillage. Mon rôle, ça a été d'aller le voir. Il est chef de l'État, il est président de la République, et de lui dire, voilà la situation à Marseille. Soit on continue comme avant, soit on considère que cette ville, elle a un rôle à jouer. Soit on considère qu'elle est presque malade, qu'elle va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville? Et on s'est mis à travailler.
Et la réponse du président, c'est aussi, pour l'avenir, ça dépend de vous. Pas seulement de l'État, mais de votre capacité, élus locaux, élus de la métropole, à enfin vous mettre autour d'une table et à vous entendre, ça et à ne pas reproduire les divisions de ces dernières années.
C'est la mise en garde d'Emmanuel Macron qu'on écoute, les fameux chicayas locaux.
L'État peut systématiquement arriver en proposant des milliards. Si toujours l'action publique est divisée, et les chicayas locaux bloquent l'avancée, ces milliards n'arrivent jamais sur le sol. Mais ça n'est pas la faute de ceux qui les ont dit avant moi. C'est la faute d'une action collective qui n'arrive pas à s'organiser et se faire. L'État ne vient pas investir pour, en quelque sorte, que certains viennent prélever leur dîme. Pardon d'être très franc. Comme je suis très ambitieux avec vous, je vous le dis. Et donc, en même temps qu'on investit, monsieur le maire, moi j'attends de vous que vous réformiez. Et je sais que vous en avez l'envie.
Alors, ça, maintenant, la balle est dans votre camp et dans celui de la métropole, Martine Vassal, avec cette sorte de vaste usine à gaz, 92 communes, des intercommunalités qui n'ont pas disparu, qui sont encore fondues dans la métropole, c'est très compliqué.
De mille feuilles inédites en France, je pense qu'il faut passer à autre chose. Le président l'a dit, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut réformer, il faut simplifier. La métropole ne peut pas fonctionner comme ça. Pour le reste, pour ce qui est des réformes, bien évidemment qu'il faut faire avancer la ville. Il faut la transformer, il faut changer, pas rester dans une situation aussi difficile. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. C'est ce qu'on a commencé à faire en divisant par deux le nombre de directeurs à la ville, en divisant par deux le nombre de directeurs généraux, pour de l'efficacité, pour de l'intelligence. C'était nécessaire. C'est pas facile à faire. D'ailleurs, si l'État devait diviser par deux le nombre de directeurs de la grande administration ou de l'administration centrale,
Les chiffres ont été pointés par le président. Est-ce que vous allez réduire les effectifs municipaux? 15 000 employés municipaux à Marseille?
13 000 employés municipaux. 13 000, oui. Très objectivement, ce n'est pas une ville surdotée. Alors, vous voyez, et je vous prends en flagrant délit, finalement, de légère méconnaissance de ce qui se passe à Marseille. On a l'impression qu'à Marseille, il y a une espèce de multitude d'employés municipaux qu'on serait suradministrés. Eh bien, non. On est dans la moyenne, même très, très, très basse.
Ce qui n'est pas dans la moyenne, c'est l'absentéisme.
Exactement.
Ce qui n'est pas dans la moyenne, très, très c'est l'absentéisme.
Et ça a été relevé par le président de la République. Vous avez un problème avec votre personnel.
On a justement, c'est à ça qu'on travaille. Et ça, il faut le faire. Et ça, on ne peut pas pas ni le cacher, ni le nier.
Et vous avez été très objectivement. Quand il a dit, comme ça, publiquement,
on avance là-dessus.
Vous lui déroulez le tapis rouge, vous restez avec lui pendant 3 jours, et à la fin, il critique la mairie, la municipalité, le
Certains ont dit
qu'il
vous avait mis une fessée publique. Ça, c'est un élu local qui s'exprime après ses remontrances.
Mais quelle était votre réaction quand vous l'avez entendu?
Mais en fait, le président de la République nous dit qu'il faut réformer, il faut faire moins de grèves. Bon, d'abord, je pense que les gens qui lui préparent ces dossiers doivent un peu réactualiser leur fiche. Et c'est normal, il y est pour rien, il n'a pas la connaissance exactement de ce qui s'est passé. Je vais vous dire quelque chose. À Marseille, on a divisé par deux le nombre de grèves. Comment? En faisant du dialogue social, en discutant, pas à coups de bâton. C'est parce qu'on est allé parler avec tout le monde. On a divisé par deux le nombre de grèves pour être justement, pour pouvoir rendre un service public de qualité. Parce que ce n'était pas acceptable qu'il y ait autant de situations difficiles, de grèves. Ce n'était pas acceptable qu'on ait autant d'écoles fermées. Mais encore une fois, on l'a fait avec beaucoup d'intelligence. Pourquoi il y avait des grèves? Peut-être parce que le gouvernement de M. Macron et son ministre de l'Éducation nationale n'a pas compris que c'était insupportable pour des femmes qui, pendant 40 ans, servent tous les jours 200 gamins à la cantine, de faire 7, 8 services. C'est peut-être pour ça que ça ne marchait pas non plus. Donc il a fallu travailler, expliquer, et c'est comme ça qu'on a fait diviser tout ça.
Vous êtes plutôt heureux? C'est un maire heureux qu'on reçoit ce soir?
Oui, plutôt, quand même.
Plutôt.
Il faut reconnaître la vérité.
Ou agacé par les critiques, par des méconnaissances de la réalité du terrain.
C'est des commentaires, je pense qu'évidemment le président connaît la ville. Pour ce qui est des chiffres, encore une fois, il fallait les actualiser, c'est pas son sujet, vraiment. Plutôt heureux parce que c'est quand même inédit. C'est pas rien, président, 3 jours dans une ville. C'est pas commun. Et ça veut dire qu'il a cette conscience-là, même si je ne partage pas un certain nombre de choses avec lui et je continue à ne pas les partager. J'ai pas été d'accord avec tout ce qu'il a dit. Pour autant, il a montré de l'envie. Il va venir le 15 octobre.
Il va revenir.
Le 15 octobre, on va mettre en place les choses. On va signer la création de la société. le 15 octobre, il fera des annonces.
Dans sa visite, Emmanuel Macron a qualifié le docteur, le professeur Didier Raoult de grand scientifique. Ce sont des mots que vous pourriez reprendre à votre compte ?
Oui.
Oui ?
Bah, c'est quelqu'un qui a apporté des choses indéniables à la science. Pendant des années et des années, il a été un grand professeur de médecine. Ça a été quelqu'un qui a fait beaucoup d'apports, qui a fait avancer la médecine. Il a été reconnu par ses pairs. C'est quelqu'un qui a enseigné des choses extraordinaires. Sur, sur la fin de sa carrière politique, les choses se sont gâtées. Il est évident que depuis le Covid, on voit bien qu'une machine infernale s'est mise en route et que les choses n'ont pas été simples.
Et sur les derniers jours, ces menaces directes contre le nouveau directeur de l'APHM, François Crémieux, dont le domicile a été...
Alors, c'est pas son domicile, malheureusement. Oui, c'est un homonyme. C'est chez un homonyme.
Ah, oui, les taggeurs pensaient qu'il taguait le domicile de François Crémieux. C'était... Ça n'était pas sa bonne adresse. Mais l'intention était la même.
L'intention est là, oui. Enfin,
collabo sur un immeuble. Il l'accuse de précipiter son départ à la retraite.
C'est pathétique. C'est pas acceptable. Très objectivement, on peut pas se contenter de ça. On peut pas l'accepter. C'est même pas un sujet. Je pense que la fin de l'histoire est tragique. Et il faut qu'elle s'arrête.
Donc, il faut tourner la page.
Il faut qu'elle s'arrête.
À l'IHU. Il faut tourner la page.
Clairement.
Un dernier
tout petit mot,
mot
de, oui, de politique nationale.
Il nous reste une minute trente.
Bah voilà, vous avez.
On n'a pas beaucoup parlé. On n'a quand même pas beaucoup parlé de la ville. Non, mais c'est pas très grave.
Si, on a fait tout un plateau l'autre jour sur les écoles, tout ça. Non, si, bien sûr.
Oui,
vraiment,
Benoît Payan.
On verra.
174.
Quand vous me réinviterez, je vous en parlerai.
Indignes de la République qui vont être rénovées.
Il faut.
Deuxième maire de la deuxième ville de France. Donc un certain poids. Vous allez soutenir qui à la présidentielle ?
On verra quand tous les
candidats...
Le maire de
Quand tous les candidats, ou la maire de la première ville de France... Quand tous les candidats ou toutes les candidates seront déclarés. Sans problème. On verra ça. Très objectivement, c'est dans 8 mois.
Vous souhaiteriez qu'Anne Hidalgo confirme
elle nous le dira.
Sa candidature ?
Pour l'instant, elle n'est pas candidate à l'élection présidentielle. Moi non plus, ça nous fait déjà un bon point commun. Et puis, comme on en a d'autres, il est probable qu'on réussisse à faire des choses.
Non, parce que j'ai entendu Martine Aubry déjà apporter son soutien à Anne Hidalgo, maire de Lille. Je pensais que celui de Marseille emboîterait le pas, lui emboîterait le pas.
Tout ça est très naturel. On verra, encore une fois, quand elle dira « je suis candidate ».
Mais c'est dira, une candidature qui pourrait rassembler la gauche,
ça sera Anne,
créer un
d'abord,
mouvement,
ça sera
un
Anne de dire « je suis candidate ».
Oui,
mais vous aimeriez qu'elle le soit.
Ce sera Anne. Non, mais moi, je me coupe de Marseille.
Finissez votre
comprenez
phrase.
Les choses. Comprenez les choses. Je comprends ce qui vous intéresse.
Vous êtes au Parti Socialiste, raison pour laquelle on vous pose cette question. Hein. Membre du Parti Socialiste.
Vous devriez donc même pas la poser.
Ah bon, d'accord. Donc vous serez légitimiste.
Enfin,
d'accord. Donc
c'est vraiment que je change d'avis aussi facilement. Ouais. Peut-être qu'on a l'habitude de gens qui changent d'avis, pas moi.
Oui, en l'occurrence.
Voilà.
Merci beaucoup, Benoît Payan, d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. Pardon d'avoir dû écorter votre entretien eu égard à l'actualité et notamment à l'annonce de la disparition de Jean-Paul Belmondo qu'on a longuement commenté avant votre arrivée.
Et qui a joué au moins trois films à Marseille.
Au moins trois films.
Sept
films à Marseille.
Un nommé La Rocca, le marginal.
Et on se quitte sur cette musique. On se retrouve dans C'est à vous la suite avec nos invités, Vicky Krieps et Daniel Auteuil. A tout de suite, on vous attend.